Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche, on est dimanche, de France Inter à la radio, France Info à la télévision, en partenariat avec le journal Le Monde. Après avoir reçu, c'était sportif, tous les candidats ou leur soutien lors des deux dernières émissions, aujourd'hui, à une semaine du premier tour, on va prendre le temps d'analyser cette campagne, une campagne chaotique, traversée par la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine, une campagne marquée par l'entrée très tardive du président de la République dans la course, une campagne qui aura vu aussi les grands partis de gouvernement en difficulté au point que l'on se demandera si on assiste à l'achèvement de la recomposition politique entamée il y a 5 ans. Mais avec une abstention qu'on annonce record, nous interrogerons également l'état de notre démocratie et nous tenterons de dessiner les contours d'une élection qui semble encore très indécise. Et pour tout cela, deux politologues sont avec nous en direct jusqu'à 13h, des fines gâchettes, les Smith et Wesson de l'analyse politique, Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'université Côte d'Azur, membre du comité de rédaction de l'excellent journal Le 1, et Jérôme Jaffré, directeur du CECOP, le centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et chercheur associé au CEVIP.
Question politique. Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de répondre en même temps, en cœur. Je disais, fine gâchette et avec moi, les fines fleurs de l'interview politique. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous. Les calamités de James.
Non. Ah, ça, on verra. François Soissos du Monde.
Bonjour à tous.
Et Karine Descartes de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Allez, première question à tous les deux, que j'ai posée aux politiques d'ailleurs qui se sont succédés ces deux dernières semaines. Est-ce que vous auriez chacun un adjectif pour qualifier cette campagne électorale un peu particulière? Vincent Martini d'abord.
Je dirais, j'en aurais deux, en apparence morne, mais en réalité potentiellement inattendue. C'est-à-dire morne, ça tout le monde le dit, hein. On a le sentiment d'une campagne qui a fait un peu l'objet d'une formule que j'utilisais il y a quelques semaines, un kidnapping démocratique mais sans kidnappeur. C'est-à-dire, c'est pas la faute de quelqu'un en particulier, mais il y a une série d'événements qui a empêché la campagne de pouvoir se dérouler comme prévu, et donc, par conséquent, potentiellement inattendu. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, deux candidats émergent, que la marge de distance entre les deux s'amenuise et que les reports de vote pourraient laisser penser à un deuxième tour qui va être plus agité, je crois, que ce qu'on pourrait imaginer.
Je retiens l'expression « en apparence morne ». Ça tombe bien, parce qu'on va en parler pendant une heure. Jérôme Jaffré.
Pour moi, c'est une campagne de crise et qui ne résoudra probablement pas la crise et les crises. Une campagne de crise, bien sûr, ça s'inscrit dans la succession des crises que le pays connaît et les habitants connaissent depuis maintenant plusieurs années, avec évidemment la guerre en Ukraine et ce qu'elle représente d'inquiétudes supplémentaires pour les Français, de conséquences sur leur vie, de conséquences sur leur perception du monde. Et le problème, c'est qu'il n'est pas sûr que cette présidentielle permette de répondre aux crises. Or, c'est la fonction première de la présidentielle dans les institutions de la Ve République, recréer le lien et permettre au pays d'avancer dans une direction. Là, mon inquiétude, c'est que les Français n'ont pas accroché à cette campagne électorale jusqu'à présent. Alors, l'incertitude que soulignait Vincent Martini fait que ça peut remobiliser maintenant, mais c'est tard tout ça.
Alors on va donc discuter ensemble pendant un bon quart d'heure, je pense, de cette campagne en particulier. Première question, Françoise Fressoz.
Qui est responsable du fait que le débat n'a pas accroché? Est-ce que ce sont les acteurs politiques? Est-ce que chacun est resté un peu dans son rôle politicien? Est-ce que ce sont les organisateurs du débat public? Où est la part de responsabilité?
Alors, pour dire des choses un peu différentes de ce qu'on peut entendre, les électeurs ont leur responsabilité. Et il ne faut pas l'ignorer. C'est-à-dire qu'il y a une relation des électeurs avec la politique et avec l'élection présidentielle qui ne fonctionne plus de la même façon. Et forcément, les électeurs n'ont pas tout à fait leur place dans ce système. La présidentielle, c'est le moment d'expression de la volonté nationale. Voilà, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle. Et ce que les institutions de la Ve République font, à partir du moment où la volonté nationale ne se cherche et ne s'exprime pas suffisamment clairement dans une élection présidentielle, elle ne joue plus son rôle.
Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas?
Alors, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, une usure, certainement, une usure du système politique en soi, un abaissement des repères politiques. Il faut bien voir que la décomposition politique et recomposition politique de 2017 a entraîné un abaissement des repères politiques pour les électeurs. La structuration gauche-droite, dans sa simplicité et sa force, donnait entièrement ce système de repères qui était extraordinairement facile. Et puis le fait qu'un président sortant se représente. Excusez-moi de vous dire que sous la Ve République, les campagnes les plus mornes ont été celles où les présidents sortants se représentaient. Parce que d'abord, il le fait tard. Il n'a aucune envie d'un débat trop fort, croyant que sur son Aventin, tout va très bien. Ça peut aller jusqu'au désastre final, souvenons-nous de Valéry Giscard d'Estaing en 1981, et refusant les débats. Or, nous avons un changement de notre système médiatique aussi. Le débat est devenu une composante normale. Le débat, c'est l'affrontement, la discussion entre les candidats. Le fait de ne pas le faire gêne les électeurs et a freiné ce mécanisme dont vous parlez, Françoise.
Vincent Martini, votre point de vue sur cette désaffection, peut-être, cette campagne un peu morne.
Ouais, alors je partage évidemment ce que vient de dire Jérôme Jaffré dans la totalité de ses commentaires. J'ajouterais le fait que on a eu des signaux d'alerte déjà sur d'autres élections intermédiaires, puisque les municipales comme les régionales ont fait l'objet d'un taux de participation très faible. On voit bien qu'il y a quand même un décrochage de l'électorat sur le mode de la participation traditionnelle. Alors là, moi, je pense vraiment que les institutions sont vraiment en cause. On a le sentiment, dans toutes les dimensions d'ailleurs de cette campagne présidentielle, la difficulté de délibérer, l'espèce de campagne dont on a dit qu'elle était téflon, c'est-à-dire que rien n'accrochait, sur le fait que les électeurs pourraient ne pas être aussi bien mobilisés qu'on le souhaite, sur le fait qu'un candidat se met complètement en surplomb, qu'on est dans le pire de la Ve République, c'est-à-dire un système dans lequel il y a une tentation d'homme providentiel, l'homme providentiel se prend pour un homme providentiel, ça tombe bien, et les électeurs du coup n'ont qu'à être les spectateurs justement d'un spectacle, pardon, de cette tautologie qui ne les concerne pas. Et à ce titre-là, il me semble que là, vraiment, on est dans une usure du système qui est très grave et qui a été renforcée, évidemment, par les événements qu'on connaît. Donc là, je ne vais pas développer énormément, c'est-à-dire 2 ans de pandémie dans lequel, justement, il y a un repli quand même des citoyens sur la sphère individuelle, ce qui fait que refaire du collectif, eh ben, ça prend du temps. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce que la crise a fait au corps politique, en réalité, même s'il y a un désir d'en sortir, même s'il y a un désir de revivre qu'on constate, évidemment, dans la société. Eh ben, je crois que la politique peut être une des victimes. De la même manière que le Covid a profondément changer les rapports dans le monde du travail, et je pense que ça aura des conséquences bien au-delà de l'élection, eh bien je pense que ce Covid a aussi des conséquences très fortes sur le monde de l'élection, perçu comme une offre et une demande qui est de plus en plus en inadéquation, c'est-à-dire ce qu'offre le système politique, là je ne parle pas d'un candidat en particulier, mais ce qu'offre le système politique devient complètement en inadéquation avec ce que souhaiteraient les électeurs.
Mais est-ce que les candidats n'ont pas raté l'occasion justement d'entraîner les gens? Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Est-ce que c'était pas une formidable occasion de nous parler de l'autonomie énergétique, de la défense européenne? Est-ce que finalement il n'y avait pas une fenêtre de tir pour les sujets de fond et qu'on ne soit pas simplement dans l'écume ou dans des sujets
Et avant cela, la question sanitaire, la question des services publics. C'est vrai que les crises ont imposé des thèmes. Et Nathalie considère que peut-être les candidats ne les ont pas attrapés.
Peut-être en un mot quand même. C'est intéressant parce que moi je participe à un projet de recherche qui s'appelle laboussolepresidentielle.fr, qui est un de ces sites d'aide au vote dans lequel, vous savez, on vous dit quel candidat match le mieux avec vos idées. Et donc on peut regarder l'adéquation, les positionnements des candidats. On avait commencé en 2012, puis on l'a fait en 2017 et maintenant en 2022. On constate que de 2017 à 2022, sur le champ partisan, les positions sont quasiment les mêmes. C'est comme si le Covid, les gilets jaunes, n'avaient quasiment rien changé. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est certes moins libéral sur le plan culturel qu'il ne l'était en 2017, mais il est exactement quasiment au même endroit en termes de libéralisme économique. Marine Le Pen s'est un peu recentrée, c'est elle qui a fait d'ailleurs le positionnement stratégique, le déplacement stratégique le plus intéressant, parce qu'elle se recentre, elle était beaucoup plus antilibérale sur le plan économique qu'elle ne l'est aujourd'hui, on le voit sur les questions des droits de succession, on le voit sur toute une série d'enjeux sur les charges, sur les entreprises, où elle se recentre à droite, plutôt, pour le dire comme ça, mais les sociodémocrates n'ont pas bougé, la gauche n'a pas bougé. Donc ça pose quand même une difficulté par rapport à ce que vous disiez sur les enjeux de fond, parce que situation totalement différente et pourtant des candidats qui restent, grosso modo, sur des positions qui sont les mêmes. Et je crois que là, c'est une partie du problème.
Jérôme Jaffré. Pour ajouter sur cette question de Nathalie Saint-Cricq, le sentiment des Français, c'est que quel que soit l'élu, les choses iront plus mal en France, à cause des crises précisément que nous connaissons. Or, la fonction de la présidentielle telle qu'elle se déroule, c'est de promettre que ça va aller mieux. Chaque candidat tient ce discours face à un pays qui pense que ça va aller plus mal. Donc on a ce décalage formidable. Et en même temps, je dirais, si j'ose dire, en même temps, les électeurs n'aiment pas qu'on leur dise des choses désagréables sur la suite. Et ceux qui s'y sont prêtés dans les élections présidentielles antérieures, je pense à Raymond Barre, bien sûr, à François Fillon dans le début de sa campagne, ça n'est pas positif non plus. Mais du coup, nous avons un discours de promesses, promesses, beaucoup axées sur les promesses catégorielles dans cette campagne, très exagérément, et ces promesses ne sont pas crues par les électeurs, mais qui sont quand même contents qu'on leur fasse cette musique. C'est pour ça que je parle de la responsabilité aussi des électeurs par rapport à cette situation qui ne fonctionne mal. Et j'ajoute le cercle vicieux du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a tout écrasé comme sujet, a entraîné des promesses allant à volo, alors que les Français considèrent que non seulement il a diminué dans les dernières années, et une des difficultés du président sortant, c'est d'affirmer qu'il n'a cessé d'augmenter, parce que le pays ne le croit pas sur ce terrain-là, mais il ne l'a jamais cru, le pays, en gros. Hein, même sous la 4e République, dans les sondages de l'IFOP de cette période, les Français, dont le pouvoir d'achat augmentait d'année en année en francs constants de 5 à 7%, disaient toujours « non, ça n'augmente pas ».
Les besoins augmentaient.
Alors il fallait demander, est-ce que par rapport à vos parents, vous pensez que vous vivez mieux, pour finir par aboutir, oui, c'est vrai, un petit peu, on a une voiture, on a un frigidaire, on a un certain nombre de choses.
Une radio.
Donc, la radio, bien sûr, elle est toujours là, la radio. Donc, le pouvoir d'achat. Alors, avec l'Ukraine, on est passé de l'idée de la progression du pouvoir d'achat à l'idée de défense du pouvoir d'achat. On a quand même fait un glissement dans l'organisation. Mais c'est un cercle vicieux, parce que chaque candidat qui promet des choses sur le pouvoir d'achat, d'une part, il n'est pas vraiment cru, et pour espérer être cru, il en rajoute dans les promesses qu'il délivre. Donc nous sommes dans une sorte de cercle vicieux démocratique.
Karine Bécard.
Alors on a parlé, on a essayé d'expliquer les choses par le système, par les institutions. On a essayé de parler un petit peu de la vision, du manque de vision de nos candidats. Je voudrais qu'on parle vraiment aussi des candidats, alors sans prononcer de nom, ce qui rend la chose...
On peut prononcer des noms, rassurez-vous.
Ah bon, un peu compliqué. ces candidats, quand même, si on les observe dans leur globalité, ils sont partis relativement tard dans cette campagne, voire certains très tard. Je ne pense pas qu'à Emmanuel Macron, au président sortant. Ils sont partis tard et... Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont apparus très vite, assez peu aguerris ou assez peu préparés à la campagne. Est-ce que ça a joué aussi pour donner cette impression de campagne qui prend pas, qui est morne, pour reprendre votre expression? Est-ce qu'il est là aussi le problème sur les candidats, sur les politiques, qui ont peut-être, je vais plus loin dans ma question, pas le niveau de l'enjeu qui se présente à eux?
Et j'ajoute une petite incise à la question de Karine. Vous avez suivi un peu plus Jérôme Jaffré que Vincent Martini, beaucoup d'élections présidentielles, permettez-moi cette petite indélicatesse, c'est la vérité. Comment est-ce que vous la jugez celle-là par rapport à ce que vient de dire Karine? Est-ce que vous considérez effectivement que le personnel politique est moins à la hauteur peut-être, c'est un peu la question, que par le passé?
Je parlerai d'abord d'usure du système, effectivement, davantage. Hein. Et là, le quinquennat joue aussi son rôle. On nous dit plein de candidats se présentent pour la troisième fois, ben évidemment en 10 ans. Car pour se présenter 3 fois à une élection présidentielle, il n'y a que 10 ans qui s'écoulent. Ben, on risque de les avoir encore une ou deux fois pour un certain nombre d'entre eux. Donc on a ce mécanisme un peu d'usure du système qui joue. La présidentielle qui avait le moins bien fonctionné de toutes, c'est celle de 2002. Et de ce point de vue, ça ne nous rappelle pas les meilleurs souvenirs.
Et vous faites des similitudes avec 2002, là, ou pas? Il y a des choses qui vous rappellent?
Le désintérêt pour 2002 était immense. Il y avait 16 candidats. Les médias avaient fini par renoncer quasiment à parler avant le premier tour, compte tenu des règles que vous connaissez.
Bah, ça s'est pas arrangé. Hein.
Et qui sont
qu'on
assez
connaît,
complexes.
Qu'on subit, mais ils considéraient
surtout que, attendons le second tour, Jospin-Chirac, pour que les choses sérieuses se font, ce sera clair, et là, on pourra parler, on pourra y aller à fond. Oui. Les électeurs pensaient la même chose. Alors là, il y a une différence qui existe. Il y avait une incertitude très grande de savoir qui gagnerait de Chirac ou Jospin avant 2002. Là, le pronostic est tellement favorable au président sortant, et il est resté jusqu'à ces derniers jours. Et maintenant, il y a au contraire un mouvement qui se fait dans l'intérêt et d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.
On en parlera dans un instant.
Chacun a intérêt à considérer que le pronostic, c'est pour eux, pour bénéficier d'un courant électoral final de fin de campagne en leur faveur. Mais 2002, les électeurs ont eu, beaucoup d'électeurs, énormément d'électeurs, ont eu leurs yeux pour pleurer le soir du premier tour. Et donc, nous verrons ce qu'il en est le 10 avril prochain.
Vincent Martini.
Alors, en réponse à votre question sur ces candidats qui seraient partis pas assez tôt. Je ne crois pas que ce soit totalement vrai. Je pense que certains candidats sont partis il y a très longtemps. En réalité, je ne crois pas qu'à part Emmanuel Macron, je ne crois pas qu'il y ait tant de candidats qui aient commencé si tard. On va dire que le Congrès des Républicains est peut-être venu un peu tard. On va dire que, en effet, Emmanuel Macron a déclaré sa candidature au dernier moment.
On a Taubira qui ose rentrer dans la danse,
mais qui finalement
ne rentre
pas d'ailleurs.
Oui,
donc,
enfin,
au final, on a la candidate qui était prévue déjà depuis septembre dernier, qui est Anne Hidalgo. Bon, alors après, ces résultats sont une autre affaire. Donc, je crois qu'il y a en revanche deux sujets sur la campagne. La première sujet, c'est qu'étonnante, c'est que dans l'espace central de la vie politique, on a le sentiment qu'en 5 ans, aucun candidat, aucun parti n'a tenté de créer une alternative à Emmanuel Macron. Quand vous regardez le positionnement des candidats, ils sont tous complètement explosés aux quatre coins du champ politique, comme en 2017 d'ailleurs, où vous aviez Benoît Hamon, considéré par les électeurs comme de gauche comme trop à gauche, et à droite Valérie Pécresse, qui est quasiment au même endroit que François Fillon, un poil moins libéral que lui, mais pour le reste elle est exactement au même endroit. Et donc vous avez le sentiment que l'espoir zémourien de créer une cette sorte de rupture de le système par une trumpisation par l'extérieur, par la radicalité, eh bien a été imité par quasiment l'ensemble du champ politique. Donc finalement Emmanuel Macron est encore tout seul, plus ou moins seul, dans l'espace central de la vie politique. Il a comme alternative que Madame Le Pen, au moins sur les échelles socio-économiques. Et puis le deuxième chose que je pourrais vous dire sur les candidats, parce que on parle toujours des enjeux, parce que les commentateurs sérieux pensent que les électeurs se fondent sur les propositions et que c'est uniquement la raison pour laquelle ils vont voter pour quelqu'un. Mais on sait que c'est pas totalement vrai en réalité. Il y a ce qu'on appelle l'étoffe, c'était est-ce qu'on pense que ce candidat a le charisme, est-ce qu'on pense qu'il est à la hauteur de la fonction. Et là, on voit quand même qu'il y a une différence avec les années précédentes et les autres élections, c'est que dans la société, le niveau de spectacle a monté. C'est-à-dire que nous regardons tous des séries passionnantes sur la politique. Les hommes politiques sont de meilleur en meilleur, les femmes politiques aussi, évidemment. Et donc, à ce titre-là, on ne supporte plus les mauvais acteurs. On supporte plus les acteurs et les actrices politiques qui ne savent pas faire. Et je pense que là, ça coûte beaucoup à certains et certaines candidates. On pense à Valérie Pécresse, dans une certaine mesure à Anne Hidalgo, qui ont vraiment des difficultés d'incarnation à ce titre-là. Dans une élection dont on le sait, qui est de plus en plus personnalisée. Et là, il ne faut pas imaginer que ça a toujours été comme ça et que rien ne bouge.
Mais là, c'est de la forme. Sur le fond, vous les trouvez à la hauteur aussi ?
Mais encore une fois, je vous disais, sur le fond, il n'y a pas d'alternative au candidat sortant, au président sortant. C'est ça la grosse difficulté. C'est-à-dire que quand vous n'allez pas chercher le président sortant sur le terrain sur lequel il se situe, quand vous ne lui disputez pas son électorat, vous vous confrontez donc à une difficulté parce que vous partagez un champ politique qui est complètement morcelé et dans lequel, finalement, c'est très difficile d'avoir plus qu'un certain score. D'où le fait que le ticket d'entrée au second tour soit aussi bas.
Jean-Luc Jaffray.
Juste d'un mot, dans ce sens-là, il faut comprendre que la campagne jusqu'à il y a quelques jours et le fait que le second tour paraisse plus ouvert que ce qu'on attendait, la campagne était faite par les candidats. Chaque candidat se battait contre un autre candidat en oubliant le président sortant. C'est un système dans lequel le problème de Pécresse, c'était Zemmour. Le problème de Zemmour, c'était Le Pen.
Il fallait être le deuxième.
Vous m'avez compris. Le problème de Mélenchon, c'était de piller chez Jadot et Hidalgo. Donc, il n'y avait pas un système dans lequel on essayait de créer la capacité de présider, de gouverner face à celui qui est en place. Là, pour rester dans l'historique des présidentielles que je suis depuis effectivement très longtemps, c'est la grande différence par exemple avec 81 contre un président sortant. Face à Valéry Giscard d'Estaing, vous aviez François Mitterrand en capacité d'alternance immédiate et vous aviez du coup le choc qui donnait la lisibilité et la formidable mobilisation des électeurs. Alors c'est vrai aussi que le talent du personnel politique était certainement supérieur. Prenons un exemple. La candidate de la droite dans cette élection présidentielle a souffert d'un problème immédiat de construction de légitimité. Au-delà, parce que elle connaît très bien ses dossiers, manifestement, Valérie Pécresse.
Elle a
travaillé
sur
son programme. Il y a une maîtrise de tout ça. Mais à droite, il y a une construction de légitimité qui se fait soit par l'exercice de fonctions institutionnelles très hautes, et disons le mot, c'eût été Édouard Philippe, le parfait candidat de la droite dans cette élection présidentielle, mais il ne pouvait pas l'être puisqu'il était dans le camp macroniste. Et il a construit sa légitimité en espérant qu'elle servira sur une élection ultérieure. Vous avez la légitimité d'occupation de la direction d'un parti, mais l'affaiblissement des partis, on va peut-être y revenir, fait que, regardons Olivier Faure et Christian Jacob, et nous nous disons que ce n'est peut-être pas à la hauteur de Jacques Chirac et François Mitterrand, président du RPR, ou premier secrétaire du Parti socialiste, et vous avez enfin une légitimité qui s'organise par la légitimité d'opinion si vous êtes porté par un grand courant d'opinion. Et sur ces trois points, la candidate de la droite partait dans une situation extrêmement difficile, mais la difficulté que nous avons un peu, c'est de commencer à expliquer les choses alors qu'elles ne se sont pas encore définitivement produites. Donc nous verrons.
France Inter. question politique.
Jérôme Jaffray, Vincent Martini avec nous jusqu'à 13h. Nous verrons, disiez-vous, Jérôme Jaffray. Eh ben, nous, on a vu, on a entendu ce que vous aviez dit à Noël, quand vous étiez venu pour analyser déjà l'état de la campagne. C'est frappant, on a réécouté l'émission. On ne parlait évidemment pas de guerre en Ukraine, on ne parlait que de Covid. On se demandait comment ça allait influencer l'élection. On parlait beaucoup d'abstention déjà à l'époque. Vous aviez dit à l'époque à notre micro, j'ai peur qu'on passe du vote refus au refus de vote à une semaine du scrutin. Quel est votre point de vue désormais sur la question ?
D'abord, une très forte menace d'abstention sur le premier tour. Le record des 10 présidentielles précédentes, c'est 2002 précisément. Le premier tour de 2002, 28,4% d'abstention. La présidentielle, normalement, elle mobilise formidablement. Vincent Martini rappelait que nous avons eu le choc des municipales et des régionales, c'est-à-dire une cassure complète entre le citoyen et le vote. Est-ce qu'on va réparer un peu cela ? Est-ce qu'on va vers un tiers d'abstention au premier tour de la présidentielle ? Et à ce moment-là, la question de l'expression de la volonté nationale se pose. Parce que nous savons, et là, le vote refus aboutit à peser sur un second tour qui opposerait à nouveau le candidat du bloc central à un candidat situé aux extrêmes ou une candidate située aux extrêmes. Parce qu'une partie des électeurs ne se reconnaît pas dans ce choix et derrière ne considère pas que le président élu peut représenter la nation. C'est ça le rôle de la présidentielle. C'est que la puissance du président élu est reconnue, y compris par ceux qui n'ont pas voté pour lui. Alors, c'est Valéry Giscard d'Estaing en 1974, élu 50,8 contre 49,2 à Mitterrand, l'élection la plus serrée de toute l'histoire politique, mais le président reconnu de tous le lendemain de l'élection.
Alors, est-ce que, là, on est quand même à la veille de la dernière semaine d'avant premier tour, est-ce que la montée du suspense peut inverser la tendance abstentionniste ou pas du tout ?
Vincent Martini ?
Moi, je pense pas, parce que je pense que l'abstentionnisme, il est quand même dans les têtes et il est profond, parce qu'il est face à un rejet d'un système et d'une offre politique qui ne correspond pas probablement à ce que les citoyens voudraient. Si tant est qu'ils sachent ce qu'ils voudraient, puisque Jérôme Jaffray l'a très bien dit tout à l'heure, il y a une telle recomposition de l'offre politique, il y a une très grande faiblesse de lisibilité. Même si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous vous situez sur la droite ou sur la gauche, vous avez une grande partie des électeurs, plus grande qu'avant évidemment, et de plus en plus grande, qui dit, finalement, pour moi, ça n'a pas d'importance, mais au-delà de ça, ils n'en sont plus capables. Parce que il y a un déficit de lisibilité de ce que ce serait une offre politique de gauche ou de droite. Parce que la triangulation permanente des candidats, et en particulier du président sortant, fait qu'on brouille complètement les repères de ce que ça voudrait dire d'être de gauche ou d'être de droite. Et à ce titre-là, il me semble que ça, c'est une des difficultés de l'électorat, de se reconnaître là-dedans. Et on sait, deuxième élément, que ce qui fait la participation à une élection, c'est quand on a le sentiment d'un enjeu très fort. Et qu'encore une fois, pour l'instant, même si on voit Marine Le Pen avoir des scores d'intention de vote putatif évidemment monter, eh bien l'enjeu n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le sentiment qu'il va se passer quelque chose avant le premier tour. Donc peut-être qu'il y aura un sursaut de mobilisation au second tour, mais j'ai plutôt l'impression que ce qu'on prédit, c'est-à-dire un tiers d'abstention, pourrait être tout à fait ce qu'on aura la semaine prochaine.
Je voudrais revenir sur ce que disait Jérôme Jaffray tout à l'heure. Si on mélange l'abstention et un risque de score extrêmement serré au second tour, est-ce que vous ne considérez pas quand même un peu que Gérard Larcher n'a pas entièrement tort en disant qu'il y aura une faiblesse de légitimité du côté du président si tout est si serré ?
C'est une vraie question. On est assez surpris quand même qu'elle provienne de Gérard Larcher. Oui, c'est ça le léger détail de l'affaire.
Pourquoi ?
Car la vérité, c'est que le président du Sénat, garant en
partie
des institutions,
c'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron lui a répondu.
Et lui-même élu par un corps électoral assez étroit et pas véritablement représentatif de la population des communes, bien non, je ne crois pas. La légitimité, c'est-à-dire le fait d'être président et d'avoir les pouvoirs du président de la République, existe et existera de toute façon en la matière. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a un risque. D'abord, qu'une partie du pays considère que l'élection n'a pas tranché les débats, ne donne pas la force d'application au programme. Et vous avez du coup une situation où la contestation est là, et le mécontentement. Le problème maintenant, c'est que le mandat d'un président s'accompagne d'une insatisfaction démocratique durant tout son mandat. Et ça, nous n'avions pas cela jusqu'à...
Ça a commencé après ?
Alors, ça a commencé,
je dirais... Il n'y a même plus la lune de miel, les 100 jours, l'état de grâce.
Voilà, ça a commencé à partir de l'élection de François Hollande. J'ai été surpris que l'électorat de droite, par exemple, ne reconnaisse pas du tout l'élection de François Hollande dès le lendemain de son élection. Ça ne s'était pas produit. L'électorat de gauche avait très bien reconnu l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, par exemple.
Mais Mélenchon a fait la même chose avec Emmanuel Macron en 2017.
Voilà. Donc, on a un mécanisme qui fait que, donc, la reconnaissance est moins grande, la contestation sourde existe, et vous avez maintenant une vie démocratique dans laquelle, vous avez la situation où l'idée que les mesures qui sont, même si elles sont annoncées par le candidat élu, elles ne sont pas considérées comme en droit d'application total, alors que c'était le cas jusqu'à présent, enfin, jusqu'à une date récente, c'était le cas. Si le président avait dit clairement ce qu'il comptait faire, il suffisait de dire ensuite au pays, je l'ai dit, je vous l'ai dit, je le fais. Là, ça n'ira pas sans contestation profonde, et c'est en sens, alors je dirais pas légitimité, je dirais en sens de capacité d'action et de satisfaction et d'acceptation démocratique, nous avons quand même un affaiblissement incontestable.
Est-ce que Vincent Martini, ça s'explique pas aussi parce que vous nous expliquiez au début de l'émission, à savoir peut-être le passage du citoyen à l'individu?
Oui, le passage citoyen à l'individu, c'est une possibilité, mais en réalité, je pense que c'est plutôt le fait qu'il y a une confusion sur la question de l'élection présidentielle entre ce qui est légal et ce qui est politique. Et des fois, le légal et le politique, ou l'institutionnel et le politique, ne vont pas de pair. Je m'explique. Vous disiez tout à fait justement, qui que soit le président ou la présidente élue dans 15 jours ou 3 semaines, eh bien, il aura les pouvoirs du président de la République. Sauf que, comme on l'a rappelé tous les deux depuis le début de cette émission, l'élection présidentielle, elle sert à purger des conflits à l'intérieur de la société. Elle a une espèce d'office de catharsis. C'est-à-dire, le seul avantage que je vois, moi, à cette élection, c'est-à-dire qu'elle permet de trancher très nettement en donnant un élan de légitimité à un candidat, dont vous avez très bien dit, en effet, que le problème de cet élan de légitimité, c'est qu'il s'essouffle de plus en plus vite, voire il disparaît le lendemain de l'élection. On se rappelle de la tribune de François Ruffin de la France Insoumise à Emmanuel Macron, vous êtes haï, etc., le lendemain de l'élection, ce qui est quand même assez frappant. On pouvait considérer ça comme choquant. Moi, je pense que c'est une tendance lourde. C'est pas lié à une personnalité politique en particulier. Mais donc, je pense qu'à ce titre-là, si vous voulez, le danger, c'est plutôt que quand vous ne purgez pas les conflits dans la société, lorsque vous n'avez pas le sentiment qu'on prend une direction, lorsque vous avez les deux candidats qui semblent être en tête des intentions de vote, même si on introduit le troisième candidat qui est Jean-Luc Mélenchon, qui ont des programmes forts, qui vont dans des directions de changement radical. Pour Emmanuel Macron, la retraite à 65 ans, l'obligation pour les titulaires du RSA d'entreprendre des travaux d'intérêt, bon, il dit pas d'intérêt général,
mais enfin, il est revenu dessus, c'est une formation, parce qu'il a bien senti que c'était pas terrible.
Voilà, mais enfin, il a quand même défendu hier dans son meeting. Bon. Ça, il va falloir un sacré niveau de délibération pour faire accepter ça au pays, parce qu'on sait que les réformes des retraites, ça fait partie des réformes les plus difficiles à faire passer. On connaît un très grand nombre de gouvernements qui se sont fracassés sur ces questions-là. Évidemment, on pense notamment au gouvernement Juppé en décembre 95, les grandes grèves, le gouvernement Fillon avait eu des difficultés sur ces questions-là. Pareil pour Marine Le Pen. On imagine que si Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon étaient désignés président de la République, vu le programme de rupture tellement fort qu'ils ont sur le plan politique, de toute manière, ils seront mal élus. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que on aura une difficulté. Là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'élection présidentielle ne tranchera rien et elle va générer forcément des conflits sociaux, puisque chacun des candidats qui souhaitent soit se faire réélire, soit se faire élire, ont prévu des programmes qui sont des programmes de rupture. Et à ce titre-là, je pense qu'on va au devant d'un certain nombre de difficultés politiques, puisque l'élection présidentielle, qui était un moment de modulation, de régulation des conflits, ne l'est plus.
Mais là, je trouve qu'on a glissé de la légitimité de celui qui va être élu, de celui ou celle, alors qu'au départ, on était parti des abstentionnistes. Donc moi, j'ai envie de revenir sur vraiment la question de l'abstentionniste. Est-ce que le fait que l'électeur soit de plus en plus stratège, c'est-à-dire qu'il ne soit pas là juste pour aller voter, soutenir une personnalité, des idées, mais pour que son vote ait véritablement un impact, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle aussi les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux ?
C'est subtil, là, comme raisonnement, chère Karine Bécard. Donc, pour que mon vote ait un sens, je ne vais pas voter. Je tire la conclusion. Mais qui n'est pas absurde du tout. C'est-à-dire qu'il y a une composante de protestation contre le système politique qui est de plus en plus grande dans l'abstention. L'abstention, quand la présidentielle fonctionnait à plein, il y avait quand même en moyenne 20% d'abstention au premier tour. Donc, vous pouvez considérer ce différentiel dans l'interprétation que nous donnerons au premier tour. Si nous sommes à 30 ou 35% d'abstention, ça veut dire, c'est tout à fait considérable, ça veut dire 5 à 6 millions d'électeurs qui décident de refuser le choix. Le péril est encore plus grand pour un second tour. Parce que là, vous pouvez regarder le vote blanc, pas seulement l'abstention. Le vote blanc, c'est je fais l'effort d'aller à l'isoloir et je mets un bulletin blanc où je raye le nul, nom, ouais. Bulletin nul d'un candidat pour marquer que je refuse le choix qui m'est proposé. Alors là, la question, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Françoise Fressos, Est-ce qu'une montée d'incertitude sur le résultat du deuxième tour ne va pas modifier le schéma que nous avions vu en 2017? En 2017, on avait 34% au second tour d'abstention, plus vote blanc ou nul, 34% des inscrits. C'était record absolu. On a eu 9% des blancs et nuls parmi les inscrits, ce qui explosait tous les pourcentages enregistrés sous la Ve République. Donc c'est considérable. La montée d'incertitude et l'hypothèse d'une candidate ou d'un candidat de l'extrême droite. Et il y a une bataille sémantique passionnante là, sur ce premier tour de présidentielle.
On est d'accord.
Est-ce qu'on a encore le droit de parler d'extrême droite ou est-ce qu'on bascule pour parler de droite radicale ? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et la bataille, souvent la bataille politique, oui, souvent les batailles politiques sont aussi des batailles sémantiques en la matière. Le Parti socialiste est devenu un grand parti. Il ne l'est plus quand il a cessé de parler de gauche non communiste. Parce que gauche non communiste, ça le définissait comme pas grand-chose par rapport au Parti communiste français. Parler de droite radicale et non plus d'extrême droite, c'est donner l'idée d'absorption d'une partie de la droite.
Alors restez sur votre raisonnement de base. C'est-à-dire que cet enjeu, s'il y a une montée de l'enjeu avant le premier tour, qu'est-ce qui peut se passer de
alors,
ce côté-là?
Alors je ne crois pas, comme Vincent Martini, à la montée très forte de l'enjeu avant le premier tour. D'abord, je regarde les pronostics à suivre. Ils sont extraordinairement favorables à Emmanuel Macron, président sortant. Deuxièmement, ces sondages de second tour ne sont regardés que par les spécialistes, les journalistes et les amateurs de politique avant le premier tour. Les Français connaissent bien les résultats des sondages de premier tour. On voit bien quand on est interrogé, par exemple, sur la dynamique de campagne des candidats, avec une semaine de retard, ils vous donnent l'évolution constatée dans les sondages. Sont dynamiques les candidats qui montent dans les sondages. Bon, c'est assez simple comme caractéristique. Donc, cet extraordinaire phénomène d'enjeu. En revanche, à partir du 10 avril au soir, quand on connaîtra les deux qualifiés du second tour, quand nous aurons des sondages de second tour, et si ces sondages de second tour restent avec des 52 ou 53% pour le candidat qui serait vainqueur, président sortant par exemple, contre la candidate de l'extrême droite radicale, je fais ma petite synthèse, l'extrême droite radicale, là, vous aurez une mobilisation des enjeux. Et l'argument qui consiste à dire « on ne va pas aller voter » dans cette hypothèse, etc., peut s'affaiblir et nous pouvons avoir un second tour de mobilisation plus forte que ce qu'on attend.
Vincent Martini, là-dessus.
Alors oui, mais sauf que cette mobilisation du second tour, elle va jouer dans des conditions complètement différentes de 2017. Lorsque Emmanuel Macron était le challenger d'une certaine manière, ce qui s'est joué encore en 2017, c'est une situation classique de Front Républicain. Moins important qu'en 2002, évidemment, puisque les scores n'étaient pas de 98 pour Jacques Chirac comme en 2002 et de 66-34 en 2017. C'était quand même un cas de Front Républicain traditionnel. Là, on est en situation de polarisation inversée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un double barrage. Ceux qui vont dire éventuellement vouloir faire barrage à Marine Le Pen, ce sera éventuellement les électeurs de centre-gauche, comme souvent d'habitude.
Sachant qu'on ne sait pas encore qui sera au second tour tout de même, je précise.
Si tant est que ça se passe comme ce que les intentions de vote disent. Mais quoi qu'il en soit, même si ça devait être un autre candidat, admettons Jean-Luc Mélenchon qui soit au second tour face à Emmanuel Macron, la polarisation, elle va se faire aussi autour du président de la République, puisque est devenu l'homme du passif, pour reprendre le mot de François Mitterrand. Il a un bidon dont il est comptable. Et à ce titre-là, ça va être difficile parce que la tentation du tout sauf Macron va être très forte, comme on le voit par rapport au report de vote de certains candidats vers Marine Le Pen, y compris dans des familles politiques assez inattendues, comme la France Insoumise, qui est quand même assez important. Je rappelle que là, dans les intentions, si ça devait être Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, vous avez entre un quart et un tiers des électeurs de la France Insoumise qui seraient tentés par un vote Marine Le Pen. Attention, on n'est pas en situation, donc il faut voir ce qui va se passer le lendemain du premier tour, parce qu'une nouvelle campagne commence et on n'aura jamais cessé de le dire, et il faut le dire, je crois, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on projette sur un deuxième tour en partant de maintenant, on se projette dans une situation qui n'est pas la bonne. Il faut attendre vraiment ce qui va se jouer le lendemain du premier tour pour voir ensuite savoir ce qui va se passer.
Alors précisément, je m'appuie sur ce que vous venez de dire, on ne sait pas s'il y aura encore un Front Républicain, on ne sait pas ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On avait beaucoup parlé en 2017 de recomposition. On en est où, selon vous? Est-ce qu'on est dans une recomposition désormais achevée, dans une décomposition, dans une fragmentation? Quel est le sillon que vous préférez?
Alors, En un mot, je pense qu'on est encore dans une recomposition, ou plutôt cette fragmentation n'a jamais été aussi forte que maintenant. 2017, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ.
Oui.
C'est le point de départ de la dislocation du système politique, effondrement du Parti Socialiste, dont Jérôme Jaffray disait qu'il a été en effet un grand parti, mais qu'il ne l'est plus, et il n'est pas appelé, a priori, à moyen, voire même à mon avis à long terme, à le redevenir.
Ça, c'est l'achèvement donc de 2017.
L'achèvement du cycle de 2017 à gauche. À droite, une crise qui couvait depuis très longtemps aussi, qui a été dissimulée par le fait que la droite a pu sauver un groupe parlementaire important, avait la direction du Sénat, avait un parti qui demeurait comme assez implanté, a gagné des élections intermédiaires, qui lui a d'ailleurs fait croire à ce parti qu'il pouvait revenir comme avant et qu'il suffirait de mettre un autre candidat qui n'aurait pas les casseroles de François Fillon et tout irait bien. On se rend compte que c'est pas le cas.
Et là, vous dites qu'il va disparaître comme le Parti Socialiste.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le score de Valérie Pécresse devait être celui qu'on lui prédit, c'est-à-dire un score en dessous de 10%, le parti a des très fortes chances d'exploser entre ceux qui vont rejoindre Emmanuel Macron, peut-être par le tournant d'horizon, le parti d'Edouard Philippe, qui vont se rabattre sur lui. On voit d'ailleurs que les élus de la France du Sud-Est, qui pourtant sont des élus qui sont considérés en général comme plus à droite que le reste des élus républicains, eh bien ont basculé de manière assez massive chez Monsieur Macron avant même le premier tour. Et donc vous aurez, oui, une recomposition à droite qui va se jouer et qui n'est pas terminée. Sans compter le fait que l'union des droites dont rêve M. Zemmour se fera peut-être pas autour de lui, puisque sa campagne semble devoir pas être celle qu'il espérait. Mais enfin, Marine Le Pen pourrait en profiter, quel que soit son résultat au second tour ou au premier tour.
Elle a dit qu'elle y croyait pas, à l'union des droites.
Oui, oui, mais c'est pas parce qu'elle peut se faire par la base, vous savez. C'est ça le danger d'ailleurs, à mon avis, pour le président sortant, s'il devait affronter Marine Le Pen, c'est qu'il peut y avoir une union des droites qui est totalement improbable au niveau des partis, mais on sait bien que les partis aujourd'hui, ça ne compte plus vraiment. Encore un autre élément de la recomposition en cours, qui n'est pas terminé.
Revenir, d'ailleurs, c'est intéressant,
mais en revanche, ça peut être une union par la base, par les électeurs, qui partagent un certain nombre de valeurs. On voit par exemple que Marine Le Pen sur l'Europe a complètement changé d'attitude. Elle était très eurosceptique il y a 5 ans encore. Aujourd'hui, elle est très prudente sur l'Europe. Elle a renoncé au Frexit, elle a renoncé à l'abandon de l'euro.
On ne va pas aller trop loin sur les camps
des
uns des autres.
Non, mais tout ça pour dire que...
nous écoute.
Tout ça, oui, c'est compliqué. Tout, tout ça pour dire que, d'une certaine manière, ce qui faisait des frontières étanches encore entre des électeurs de droite dites classiques et les électeurs de droite extrêmes, eh bien, se sont abaissés. Donc, il y aura une recomposition qui va aller dans ce sens-là. Pour finir, je crois que la campagne, elle est pour l'instant un peu morte, on l'a dit tout à l'heure. Elle pourrait être inattendue, mais les conséquences de cette campagne vont être passionnantes à suivre, parce que la vraie composition, la vraie carte électorale, moi j'adore les cartes électorales, comme Jérôme Jaffray, on est des professeurs de sciences politiques, c'est ça qu'on aime dans la vie, c'est les cartes électorales. Les cartes électorales, c'est bizarre.
C'est un choix. Non, c'est bizarre.
Vous avez une vie incroyable.
On aime bien les cartes électorales. Quand vous regardez une carte électorale depuis 20 ans, vous vous rendez compte qu'elle est quasiment fixe. Fixe, c'est-à-dire que vous avez en gros, historiquement, on prend la campagne de François Mitterrand en 81, la France du sud, d'ouest et du centre, plus la Bretagne avant le nord, eh bien c'était la gauche, et puis la droite c'était le reste. Aujourd'hui, Emmanuel Macron 2017 a remplacé les territoires de gauche, quasiment identiques. On ajoute peut-être des régions qui étaient centristes, parce que c'était le vote qui avait voté pour les électeurs qui avaient voté pour Emmanuel Macron en 2017. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, la carte électorale, elle va complètement changer. Pour la première fois depuis un demi-siècle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive là, il est certain qu'Emmanuel Macron ne va pas reprendre exactement les contours du vote social-démocrate qu'il avait porté au pouvoir en 2017, parce que, justement, il penche beaucoup plus à droite qu'il ne penchait auparavant. Donc, ça va être une recomposition totale à cause de l'effondrement prévisible des Républicains.
Un peu de géographie électorale, peut-être avec vous, Jérôme Jaffray. Et encore une fois, je rappelle les règles du jeu. On ne parle pas trop en approfondissement d'un ou de l'autre des candidats, fût-il le président de la République.
J'essaierai d'appliquer la règle que vous fixez. Mon sentiment sur la décomposition qui se prolonge, en gros, nous avons un bloc central qui porte un candidat particulièrement, le président sortant, mais qui est assiégé. Ce bloc central est assiégé. Il est assiégé par la concurrence de la droite radicalisée et de la gauche radicale. Nous avons donc une situation, parce que si vous ajoutez les extrêmes au sens large, vous atteignez probablement... je mets les candidats d'extrême gauche, je mets Jean-Luc Mélenchon, je mets Fabien Roussel, je mets Éric Zemmour, je mets Nicolas Dupont-Aignan, je mets Marine Le Pen. La possibilité que ce camp qui n'en est pas un, qui n'est pas structuré, qui n'est pas homogène, dépasse les 50% des suffrages exprimés est très grande.
Pour vous, c'est ça le clivage aujourd'hui, c'est pas droite-gauche, c'est radical,
bloc central contre qui essayent de tenir face à des oppositions qui sont radicalisées largement, parce que je considère par exemple qu'à peu près la moitié des votants de la candidate des Républicains dans cette élection appartient à la droite radicale, en fait, et est proche de la droite radicale. Et donc, quelle est la réponse qui peut être apportée à ces mécanismes? Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers la recomposition.
Absolument.
D'une part, un élargissement politique de la majorité, si elle demeure liée au bloc central après les élections, par absorption d'une partie importante des élus de la droite, intérêt immense de l'affaire, c'est que vous élargissez vers les réseaux d'élus. Car le problème des partis politiques créés autour des candidats à la présidentielle, c'est qu'ils n'ont pas d'enracinement dans le pays. On l'a vu avec La République En Marche, après l'élection du président sortant. La France Insoumise, le Rassemblement National ou Reconquête ne me paraissent pas organisés sur un enracinement dans le pays et des réseaux d'élus.
Enjeu... Mais attendez, ça veut dire que les vieux partis meurent et que les nouveaux partis n'existeront pas longtemps, vous leur accordez une espérance de vie très courte.
Donc qu'est-ce qui reste ? Les vieux partis ont des gros problèmes, en partie faute d'un travail idéologique et d'un travail d'idées, et les nouveaux partis organisés autour des leaders n'ont pas d'enracinement. C'est la double crise du phénomène partisan dans le pays.
C'est la tête et le corps. Il y en a certains qui ont la tête.
Je termine quand même, François, si vous permettez, sur la recomposition. Ce qu'annonce de fondamental le président de la République s'il est réélu et qui se sentant dans une indifférence stupéfiante, c'est l'annonce qu'il est d'accord pour faire voter la représentation proportionnelle après son élection, qui ne s'appliquera pas aux législatives qui suivent, astuce du propos, d'un président qui n'est pas rééligible et qui n'aura pas donc à se poser trop de questions pour la suite, mais qui change et bouleversera la donne des partis politiques.
Si ça se fait.
Mais en tout cas... Lui dit maintenant qu'il est prêt à le faire. Alors ça pose des tas de problèmes de politique, d'architecture institutionnelle et politique, mais si nous allons effectivement vers l'hypothèse d'une proportionnelle votée par l'Assemblée qui sera désignée au mois de juin, le jeu politique se recomposera beaucoup plus que ce qu'on dit aujourd'hui.
Pour approfondir ce chapitre recomposition, idéologiquement, sur quoi se fait cette recomposition? Parce que vous décrivez au fond un pôle central face à des radicalités différentes, de gauche ou de droite radicale, ou d'extrême droite. Quels sont les moteurs, les facteurs de cette recomposition? Sur quoi ça se joue en priorité?
Alors, le bloc central... Premier critère, c'est le cercle de la raison, cher au cœur, par exemple, d'un Alain Minc. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de trouver des solutions raisonnables et réalistes. Deuxième critère, et le meeting d'hier à la Défense était très important là-dessus, le thème européen, l'Europe. Parce que un débat de second tour, soit face à Jean-Luc Mélenchon, soit face à Marine Le Pen, par exemple, les deux hypothèses plausibles, c'est un second tour dans lequel la question de l'acceptation de l'Europe par les adversaires, se pose beaucoup plus fortement. Or, l'Europe, le problème de l'Europe, c'est qu'on a vu ces dernières années dans l'opinion publique française monter le sentiment pro-européen, monter l'idée que l'Europe nous protège sur le plan monétaire, nous protège sur le plan sanitaire avec la politique vaccinale qui a été menée et est absolument nécessaire compte tenu de ce qu'est la guerre en Ukraine et d'un monde beaucoup plus dangereux qu'avant. Donc, le débat, il va être en partie celui-ci, me semble-t-il, dans l'hypothèse d'entre les deux tours, quels que soient les scénarios que nous pouvons envisager.
Allez, on dézoome à nouveau. Vincent Martini, est-ce que le souci n'est pas aussi celui que, et vous avez travaillé sur le sujet de la désaffiliation, que les jeunes militants d'hier ne sont pas forcément des jeunes militants aujourd'hui, qu'ils sont des jeunes peut-être électeurs, voire même pas des jeunes électeurs? Est-ce que ça, c'est pas aussi un élément qui rend compliqué notre lecture aujourd'hui du paysage politique?
Alors, il faut relativiser le rôle de la jeunesse dans une élection parce que malheureusement, à toutes les élections, la jeunesse vote tendanciellement moins que le reste de l'électorat. Et ça date pas d'aujourd'hui, c'était déjà le cas il y a une vingtaine d'années. Donc on n'est pas dans un abandon par la jeunesse de la vie politique traditionnelle. C'est que les jeunes gens, c'est-à-dire entre 18 ans et 35 ans, ont tendance à moins voter que les autres.
Vous élevez la barre là puissamment.
Oui, 35 ans, c'est vrai. Deuxième élément, il me semble que vous avez une jeune génération... Alors là, qui ne se reconnaît pas du tout, ni dans le système institutionnel, ni dans les idées proposées. Et à ce titre-là, qui est dans une forme de socialisation politique qui existe, c'est-à-dire qu'elle est politisée, Elle s'intéresse à toute une série de thématiques, on l'a dit. La société, elle continue de travailler dans cette jeunesse, au travers des questions environnementales, au travers des questions des rapports entre les hommes et les femmes et du genre en général, au travers de la question de l'antiracisme, au travers de la question du pouvoir d'achat aussi pour elle-même, puisqu'elle est la grande oubliée du pouvoir d'achat. Elle a beaucoup souffert de la pandémie de Covid, mais elle ne le formule pas dans des termes qui appartiennent au jeu politique traditionnel. Donc à ce titre-là, elle risque d'être encore spectatrice de ce qui est en train de se jouer pour l'instant, de cette recomposition, décomposition, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ça, c'est une dimension
mais
importante.
Mais pas plus qu'hier.
Non, j'ai l'impression pas plus qu'hier, au sens où elle vote pas moins qu'elle ne votait
Oui, mais elle est en même temps très politisée.
Mais elle est en même temps très politisée, puisqu'en fait, elle se mobilise dans d'autres cénacles, dans d'autres scènes, mais en fait, elle a le sentiment que c'est pas là où ça se joue. Et je voudrais quand même dire un mot, justement, sur cette idée très forte, qu'est-ce qui fait clivage ? Là, ce à quoi on assiste, par rapport aux trois candidats de tête pour l'élection présidentielle, c'est un candidat qui propose un programme pour les gagnants. C'est-à-dire pour les gagnants, c'est-à-dire les gagnants de la mondialisation, les gagnants de la construction européenne, c'est-à-dire les travailleurs qui ont les moyens de faire face à une compétition internationale. On sait bien, en sciences politiques, il y a des recherches là-dessus. La plupart des grands partis traditionnels proposent maintenant des programmes pour les gagnants. C'est-à-dire ceux qui peuvent faire face à la compétition à la fois culturelle, économique que représente la construction européenne ou la mondialisation. Et on voit bien d'ailleurs que chez le président sortant, la question de savoir que faire des perdants est une question qu'il n'a pas résolue. On ne sait pas trop quoi faire des perdants. On va les mettre au travail. En fait, il met en place, il met en scène une idée de justice.
Il y a quand même l'idée de la fin du chômage de masse qui est sa réponse à lui, hein, qui
alors,
est peut-être.
Pardonnez-moi. Encore une fois, on essaie de pas entrer trop dans les programmes.
Sans parler des programmes, je pense que les réponses sont faites autour des faits économiques, c'est pas la même chose que ce que vous proposez pour enrayer un certain nombre de problèmes qui existent encore. Là, il peut y avoir un bilan, vous défendez un bilan, il est bon, il est pas bon. C'est un autre enjeu. D'ailleurs, en plus, on se rend compte que la perception par les électeurs des données économiques, elle est complètement relative. Elle dépend de votre politisation. Si vous êtes hostile au président sortant, vous ne voyez pas les éléments de bilan qu'on vous annonce et même vous n'avez pas le sentiment que ce que le dit vrai. Ça, c'est une première chose. On constate qu'il y a deux autres candidats et une grande partie du champ politique qui proposent en revanche des programmes pour les perdants. Et le clivage est autour de ça. Quand je dis perdants, c'est pas au sens moral.
C'est les classes populaires.
C'est les classes populaires, c'est les classes moyennes qui tirent la langue, celles qui voient que le prix de l'essence va vraiment les empêcher de boucler leur fin de mois. Ceux qui disent, avec ma femme, mes enfants, on gagne 4000 euros par mois. Quand on a payé les traites, il nous reste plus rien du tout.
Ceux qui potentiellement sont plutôt des abstentionnistes.
Ceux qui sont potentiellement des abstentionnistes, eh bien, pourraient se mobiliser justement pour les candidats qui proposent des programmes qui leur parle, parce que on a assisté, et c'est ça qui est intéressant, à un retour de la question sociale avec les Gilets jaunes en 2018. La pandémie, avec le quoi qu'il en coûte, avait quand même, on a nationalisé les salaires pendant 2 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et en même temps, on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'espace central fait comme si tout ça ne s'était rien passé, et qu'on revient à la période d'avant, justement, sans probablement assez se préoccuper de ces perdants. En tout cas, il y a un clivage là-dessus.
Jean Jaffray. Juste deux mots. D'une part, sur les jeunes, on voit bien qu'un des problèmes, c'est qu'une de leurs inquiétudes majeures, c'est la question climatique, et que ça n'est pas arrivé à traiter comme un sujet d'enjeu politique et c'est de clivage politique dans l'élection présidentielle. D'où déception extrême, d'où éloignement de la politique qui ne traite pas des problèmes qui intéressent les générations à venir. Deuxième remarque, je suis assez d'accord sur ce que vient de dire Vincent Martinier sur la dichotomie gagnant-perdant. Toute la force d'un programme réussi pour les gagnants, c'est de faire passer l'idée aux perdants qu'ils perdront davantage avec l'élection d'un représentant des perdants. Tout se construit comme ça pour pouvoir dire, en fait, c'est vrai que pour vous, la vie est difficile, mais elle va devenir catastrophique si vous faites confiance aux perdants. C'est le schéma d'hypothèse de l'enjeu du second tour que je viens d'un peu de décrire d'un mot.
Mais pas une seconde, vous faites la distinction entre populisme. C'est un mot qui n'a pas été prononcé depuis le début de l'émission. Alors qu'on dit, alors le centre, vous dites gagnant-perdant. Bon, il y a quand même des choses qui ont été faites au moment des Gilets jaunes. On ne peut pas considérer que le pouvoir central a rien fait. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là aussi alors, qui devrait intervenir
le populisme? Le populisme, on l'appelle la critique d'un discours du système, une forme d'hyper-incarnation, en disant « je vais cheffer encore plus que les chefs d'avant ». Et c'est, encore une fois, la dénonce et l'abolition des corps intermédiaires. Si vous commencez à avoir cette définition du populisme, que c'est à l'opéra de la science politique, vous vous rendez compte que le problème, c'est que la distinction que vous formulez entre des candidats qui ne seraient pas populistes et des candidats qui sont populistes, elle disparaît. Le président de la République est-il un populiste ou pas? Il fait abstraction des corps intermédiaires en voulant parler directement en français, on le sait depuis longtemps.
Tous populistes.
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des candidats de l'espace central qui se comportent politiquement pas avec les mêmes idées, attention, hein, mais qui se comportent politiquement avec les mêmes traits que les leaders qui sont décrits ou qui se décrivent eux-mêmes comme populistes, et ben vous avez une frontière là qui ne fonctionne plus. Donc à mon avis, non, je crois que le terme de populisme ne fonctionne pas bien parce que ça sous-entend qu'il y aurait d'un côté une politique raisonnable, qui respecterait les corps intermédiaires, qui respecterait les partis traditionnels, et de l'autre, une politique qui serait mauvaise, on le comprend bien, c'est-à-dire qu'elle ferait ablation de ses corps intermédiaires. Je crois qu'aujourd'hui, cette distinction elle a disparu.
J'aimerais qu'on termine l'émission avec un sujet qui est de plus en plus présent et peut-être, alors là je me fie à vous, hein, qui n'a jamais été aussi présent dans une campagne électorale, c'est la question du système. On a eu des élus à votre place qui ont râlé, voire de manière véhémente, contre l'équité, le temps d'équité, l'égalité un peu moins. Là c'est plutôt les directeurs de chaînes d'information ou de radio qui disent on peut pas faire l'égalité de parole entre chacun. On a eu des candidats qui râlaient contre le système des 500 signatures. Alors la question que je vous pose, 500 signatures que des petits candidats à 1% ont obtenu facilement, là où des gros ont dû obtenir l'aide de l'exécutif pour les obtenir. Est-ce que ça veut dire que le système est arrivé à bout de souffle, que la présidentielle telle qu'elle a été conçue par le passé, aujourd'hui elle n'est plus tenable?
Il y a en tout cas certainement une vraie réflexion à faire et des mesures à prendre juste après l'élection. Parce qu'après, ça disparaîtra. Il est clair que le parrainage doit évoluer.
Dans quel sens ?
Il est relativement aisé, on l'a vu sur le problème de l'application de l'article 11 sur le référendum d'initiative partagée et les aéroports de Paris, qu'il est facile de recueillir des signatures d'électeurs et de les contrôler. Ça peut parfaitement se faire. Il faut donc au moins mixer parrainage d'élus et parrainage citoyen.
Avec un plafond qui serait...
Oui, qui serait de l'ordre... qui serait de l'ordre de 150 000 à 200 000 électeurs pour pouvoir... qui soutiennent votre candidature. Il faut effectivement y réfléchir. Il faut faire des expérimentations, des tests là-dessus. Mais ce serait possible. Au-delà de ça, nous avons un problème de représentation politique qui se présente gigantesque devant nous. Imaginons un second tour d'élection où, par exemple, un des deux partis est plutôt extrême, un des deux candidats plutôt extrêmes, obtiennent 45% des suffrages. Performance jamais atteinte par un parti extrême dans les élections précédentes. Et se retrouve dans l'Assemblée nationale élue au mois de juin avec moins de 10 députés. Nous aurions un décalage vertigineux et un problème de crise de représentation. Nous avons un problème de pouvoir et de contre-pouvoir après l'élection présidentielle. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer la composition des assemblées ? Alors certains députés, je pense à François Cornu-Gentil, élu de Haute-Marne républicain, proposent une chambre du diagnostic, de transformer par exemple soit le Sénat, soit le Conseil économique et social et environnemental en chambre du diagnostic, où il y aurait, avec des citoyens tirés au sort présents selon les sujets, une discussion sur comment se présentent les problèmes, quelles sont les solutions possibles. Bref, réintroduire de la délibération dans la réflexion politique, parce que si vous assénez des décisions après une élection où les électeurs ont le sentiment qu'on reconnaît mal qui est l'élu, on souffre.
Vincent Martini, je crois que vous parlez pas mal de démocratie fatiguée. Est-ce que c'est ce qu'on voit ?
Ah bah évidemment, je pense que le système institutionnel est complètement à bout. Je comprends même pas qu'il y a une faiblesse du travail aussi, y compris des intellectuels d'ailleurs, pour essayer de proposer des alternatives. Parce que là, pour dire, ce serait formidable faire du tirage au sort.
Mais en fait, elles sont proposées les alternatives, sauf qu'on s'aperçoit que quand il faut passer à l'acte, il n'y a pas de la majorité pour le faire. Ouais. Et donc, au fond, ce qui manque, c'est quelqu'un qui ait l'autorité ou la légitimité suffisante pour dire il faut changer de système.
Alors, je suis en partie d'accord avec vous, mais pas totalement, parce que quand vous dites on les a les alternatives, non, en fait le problème c'est qu'on les a pas. C'est-à-dire que vous avez ceux qui disent on va passer une 6e république, mais pourquoi pas, qui serait quoi, parlementaire, totalement présidentielle. Si elle est présidentielle, il faudrait qu'il y ait un congrès ou l'équivalent d'un congrès aux États-Unis qui soit très fort, mais c'est pas parce que vous avez donné des pouvoirs à une assemblée qui est rabaissée depuis 50 ans qu'elle va les prendre.
Mais les propositions elles sont quand même formulées. Après c'est
que justement on bute sur l'élection présidentielle. C'est pour ça que cette élection, si elle a un taux de participation très faible, pourrait changer les choses.
Très attaché à l'élection du président, c'est un des problèmes.
Eh ben, on verra. C'est ça la question dont on parlait par rapport à la participation, oui. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une participation à 80% à chacun des deux tours, comme en 2007 ou en 2012, très difficile de revenir sur une élection qui fédère les Français. Si l'élection là ne donne plus satisfaction, paradoxalement, ça pourrait être une porte ouverte à réfléchir, non pas à une sortie d'élection, mais en tout cas à une transformation des modalités de désignation de nos représentants. Puisque, là, je partage complètement votre point de vue, il risque d'y avoir une catastrophe démocratique, encore une fois, si on a le candidat le numéro 2 ou le numéro 1 qui ne serait pas élu, en l'occurrence le parti extrême, que ce soit la gauche radicale ou la droite radicale, et qui va de toute manière avoir un faible résultat aux élections législatives. négative. Mais là, on va avoir une situation complètement absurde.
Merci, merci beaucoup d'avoir joué au funambule avec les règles de l'ARCOM depuis une heure, mais je crois que c'était tout de même passionnant et très riche. Je remercie Hélène Ginès tous et Benjamin Troncé à la technique. Je remercie Jean-Philippe Ballas et Alexandre Gilardi pour la préparation de l'émission. Elle papote, mais merci à vous d'avoir été présente, Nathalie Sacric, Françoise Fressos.
Et papotez pas, on parlait sérieusement.
Et oui, bien sûr.
Législative.
Et Karine Bécard, merci beaucoup. On se retrouve alors pas la semaine prochaine, parce que c'est le premier tour et les règles nous empêchent de parler de politique. En revanche, on se retrouve dans l'entre-deux-tours pour un débat entre les représentants des deux partis qualifiés pour le second tour.